Orléans Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. À partir de lundi et tout au long de la semaine prochaine, la cité d'Arles, dans le sud de la France, va vibrer au rythme de 80 concerts et rencontres musicales. 50 000 festivaliers sont attendus, de grandes voix et sonorités du monde seront présentes, populaires ou intimistes, acoustiques ou électroniques, sur des répertoires sacrés ou profanes. Cette 24e édition du festival Les Suds sera rythmée par les soirées. Des concerts intimistes, des moments précieux, les concerts sous les étoiles avec les DJ sets pour les Nuits des Forges, sans oublier la scène du théâtre antique. En journée également, beaucoup d'animations comme les siestes musicales ou les apéros découvertes, auxquels on peut ajouter les stages et masterclass instruments, voix, danse ou art de vivre. Dans cette émission également, nous parlerons foot. Il vous reste encore quelques jours pour visiter l'exposition « Foot et monde arabe » à l'Institut du monde arabe à Paris. Bonjour Marie-Josée Justamont.
Bonjour Éric Bataillon.
Présidente et fondatrice du festival Les Suds à Arles. Et bonjour Stéphane Krasniewski.
Bonjour Éric.
Directeur et notamment directeur de la programmation de ce festival. Alors Marie-Josée Justamont, le festival propose cette année sa 24e édition, ce sera du 8 au 14 juillet. Le pari initial, qui était de favoriser la diversité culturelle telle que définie par l'UNESCO, à savoir un patrimoine commun mondial de l'humanité au bénéfice des générations présentes et futures, est-ce que ce pari vous semble tenu au bout de 24 ans ?
Alors au niveau du festival, oui, en tout cas, nous essayons d'entretenir et de partager, surtout avec le public le plus large possible, bien sûr. Après, au niveau de l'état du monde, c'est autre chose, bien sûr. Le désir, c'était de faire mettre en valeur les pays de la Méditerranée, et puis bien au-delà, parce que la Méditerranée, il faut la voir maintenant au sens large, hein, dans notre actualité extrêmement mondialisée. Et je crois que ces musiques, en tout cas, sont toujours le reflet, encore une fois, de ce que les hommes vivent, mais aussi des grandes tensions géopolitiques, et c'est encore le cas dans la programmation de cette édition.
Alors vous essayez de trouver des points communs et aussi des points de différence, c'est cela ?
Des points communs et des points de différence. Je crois que les plus beaux morceaux de musique, hein, comme toutes les œuvres d'art, à un moment donné, même quand elles sont, et surtout peut-être quand elles sont extrêmement singulières, deviennent universelles. Et c'est souvent ce que notre public ressent et partage.
Alors Stéphane Krasniewski, dans quel esprit avez-vous bâti la programmation de cette 24e édition ?
Dans l'esprit qui a toujours été celui des Suds. À savoir montrer notre réalité du monde, voilà, en essayant d'être à l'écoute de la création artistique, évidemment, mais dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle a à raconter du monde qui nous entoure.
Alors justement, sur quel répertoire emmenez-vous les festivaliers ?
Oh, c'est vaste, parce qu'on parle là de musique du monde, donc on va aller du Liban avec Ibrahim Malouf, jusque chez les Inuits avec Ali Sapi, par exemple, vous voyez, donc on est vraiment sur des répertoires. Les scènes du festival nous permettent de proposer un éventail d'artistes et de répertoires qui est très large, puisqu'on a des scènes de jour, on a des scènes de nuit, on a le théâtre antique, voilà, donc c'est très varié.
Alors vous citez au passage les Inuits, ce n'est pas tellement au sud, me semble-t-il.
Tout à fait, c'est une notion politique. La volonté que l'on a, nous, de présenter, finalement, ces chants des peuples qui sont oubliés, qui sont en lutte, qui sont en résistance, pour amener le public à découvrir des répertoires qui sont souvent, malheureusement, pas l'honneur des médias.
Alors, vous évoquez les soirées, vous proposez plusieurs thématiques. Il y a les moments précieux, il y a les soirées sud, il y a les nuits des forges. De quoi s'agit-il dans le détail ?
Alors, dans le détail, en fait, c'est un festival qui dure 7 jours, du lundi 8 au dimanche 14 juillet, qui démarre tôt le matin et qui finit tard le soir. Et donc, on essaye de mettre en accord, de programmer les artistes sur la bonne scène, donc le bon lieu et au bon moment. Voilà. Donc effectivement, les moments précieux, c'est ce qui ouvre notre soirée. À 19h30, place assise, dans la cour de l'archevêché. Le nom Moment Précieux était inspiré à Marie-Josée, par le lieu. C'est la cour de l'archevêché. C'est cette cour, ce lieu qui a inspiré le nom du moment. Donc, place assise, 400 personnes. Et ensuite, on enchaîne avec le théâtre antique, 2500 personnes, pour un moment un peu plus solennel peut-être. Et on finit en mode festif pour nos Nuits des Forges.
Et la journée, que se passe-t-il ? Est-ce que vous avez des activités également ?
On a beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Oui. Nous essayons là aussi. Alors, nous recevons les artistes du monde entier, mais nous avons à cœur de leur faire partager notre art de vivre, celui du Musée de la France. Alors, ça se décline. Il y a des concerts gratuits. Alors, tout est gratuit dans la journée, bien sûr. Mais nous aimons surtout, encore une fois, partager de notre manière à nous. Donc, à midi et demi, par exemple, c'est ce que nous avons appelé des apéros découvertes. Et là, il s'agit de présenter les artistes qui sont là et qui vont avoir le désir, mais ça leur arrive souvent, ils sont généreux, de présenter leur musique avec le public autour d'eux et de jouer là en direct. Et puis c'est l'heure de l'apéro et on sert, alors c'est le cristal, c'est pas le pastis mais c'est le cristal, avec ou sans alcool. Encore une fois, c'est notre culture que nous partageons en ce moment-là. Et puis un petit peu plus tard, ce sont les siestes musicales et puis les salons de musique, encore une autre manière de partager avec le public. C'est un musicien qui va expliquer sa démarche, qui va raconter son pays et sa culture. Donc c'est beaucoup d'occasions de rencontrer la musique et les musiciens.
C'est des occasions festives et c'est des occasions de convivialité à chaque instant. Alors, parlons de cette programmation et notamment des artistes qui vont venir pour ce festival. Notamment, vous avez une tête d'affiche, on peut, j'imagine, l'appeler comme ça, c'est Ibrahim Malouf. Oui. C'est important pour un festival comme le vôtre d'avoir une personnalité comme le trompettiste libanais ?
C'est indispensable à l'heure actuelle. Les situations sont quand même difficiles hein, dans le monde de la musique, du spectacle vivant. Par rapport à... Bon, il y a une énorme concurrence, c'est la réalité. Bien au-delà de la culture, à un moment donné, c'est vrai que le public doit faire des choix. Et nous avons aussi besoin de ce qui s'appelle des têtes d'affiche. Là, il se trouve que c'est un excellent musicien qui nous amène là aussi une culture qui est la sienne d'origine et qui est donc passionnante à partager. Mais en tout cas, le point de vue aussi de la notion de tête d'affiche, de locomotive, est devenu indispensable, alors que ce n'était pas le cas il y a 24 ans, hein, ni même 20 ans. C'est quelque chose qui est présent depuis, je dirais, une dizaine d'années.
Mais à côté de ces têtes d'affiche, est-ce que vous avez des découvertes de jeunes talents ?
Bien sûr, c'est le
oui,
cas.
On en a beaucoup. C'est vraiment un festival, c'est un instantané sur l'état de la création. Voilà, à un moment M, on en est là. Et donc, il y a un enjeu pour les artistes à se produire sur des festivals tels que le nôtre pour justement bénéficier d'un éclairage particulier. Et l'intérêt d'avoir des têtes d'affiche comme Ibrahim Malouf, ça va être aussi de faire bénéficier de, non pas comme un éclairage qui ruissellerait jusque sur les autres, mais de profiter de ça pour, en première partie de Ibrahim, mettre Jazz à sa tour, qui est en train de construire une carrière, ou d'avoir en première partie de Bobby McFerrin Rushan Filistek, qui est un musicien réfugié en France en 2015, musicien d'origine kurde et qui n'a pas encore de disque, etc., mais qui va là pouvoir jouer devant 2500 personnes au Théâtre Antique. Donc c'est une découverte, c'est une chance aussi pour lui, on l'espère, et en tout cas il a l'air de le vivre comme ça, et on fait nous notre rôle de structurant sur toute une filière.
تشبه بيننا لما أشوفك أشوف اللي خير فيك أستغل لحظة الروح لتوصل للرضا أستغل لحظة إيمانك لتكون أقوى غيرت اعمالي هالعالم اتغير معاه لما اشوفك اشوف اللي خير فيك استغل لحمة الروح لتوصل للرضا استغل لحمة ايمانك لتكون اقوى
Vous avez aussi, par exemple, la troupe ou le groupe Yemen Blues qui vient d'Israël et qui est un objectif très particulier avec à sa tête un musicien qui est à la fois issu du Yémen, mais aussi avec un pied en Europe et un pied aux États-Unis.
Je crois qu'il a 3 ou 4 pieds, parce qu'effectivement, il a un pied à Tel Aviv, il en a un à New York, et puis il a son cœur qui est au Yémen, effectivement, parce qu'il nous vient là avec un projet qui est assez exemplaire de ce qui peut se passer au Moyen-Orient, à savoir un artiste qui est de culture yéménite, qui est arabophone, qui vit en Israël et qui s'inspire des traditions du nord de l'Afrique, autant que du blues et des musiques noires américaines, pour aboutir à un projet, une création qui est totalement cohérente, parce que ce sont toutes ces influences à lui qui s'y retrouvent, et donc c'est ce qui donne la cohésion à ce projet.
Et puis il y a aussi l'Égyptien Abdullah Minyaoui. Alors là, oui. C'est un choix presque à caractère politique, je dirais.
Oui, on peut le voir à caractère politique, et c'est vrai, nous l'assumons volontiers, mais au-delà, c'est aussi un coup de cœur artistique. Cette voix est belle, cette voix est extrêmement émouvante, nous sommes quasiment dans le domaine de la spiritualité, c'est important, ça c'est ce que nous appelons donc un moment précieux, cours de l'archevêché, et c'est vraiment exactement le bon endroit pour que s'élève ce genre de voix, hein, avec des contenus, des paroles qu'on ne comprend pas, mais une musicalité, une intensité qui, elle, va toucher encore une fois tout le public.
D'ailleurs, sa prestation s'appelle « Le cri du Caire ».
Absolument.
Et c'était un cri que l'on entendait en 2011 sur la place Tahrir, lors du printemps égyptien.
Exactement. Hein, et qu'on va entendre, et qu'on entend maintenant en France et en Europe, et c'est important aussi.
Alors, si l'on ajoute « Yemen Blues », si l'on ajoute Roussane Filitsek, si l'on ajoute l'Égyptien Abdullah Minyaoui, concernant la rive sud de la Méditerranée, peut-on dire que vous avez une prédilection pour les voix discordantes ?
Oui, pour les voix en tout cas. Concordantes aussi d'ailleurs. C'est vrai, les voix c'est extrêmement important pour le Festival des Suds depuis la première édition. Toujours, nous avons aussi une partie pédagogique qui est importante, qui propose des stages et des masterclass au grand public, mais aussi à des professionnels. Et là aussi, il y a une part très importante donnée à la voix et à la pédagogie, à la manière de redécouvrir sa voix et de la travailler.
Finalement, quel but recherchez-vous tout au long de cette semaine de festivités, Stéphane Krasniewski ?
Le but, le premier des buts, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de montrer la réalité, un instantané de la création artistique dans toute sa diversité. Et ensuite, c'est évidemment de rassembler un large public qui vient de tous les horizons autour de ces différences qui deviennent rassembleuses.
Et ce public, il vous suit d'année en année ?
Oui, on a un public fidèle. On a réussi au bout de 24 ans, mais à construire vraiment un lien de fidélité avec ce public.
Merci Stéphane Krasniewski.
Merci Eric.
Directeur de la programmation du festival. Et merci Marie-Josée Justamont.
Merci Eric Bataillon.
Présidente du festival. Donc Les Suds à Arles. 7 jours et 6 nuits de concerts et rencontres musicales du lundi 8 au dimanche 14 juillet. Yvan Gasteau est historien, maître de conférences à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il a participé à l'élaboration de l'exposition « Foot et monde arabe » que l'on peut voir quelques jours encore à l'Institut du monde arabe à Paris. Il nous dit ce qui l'a intéressé dans la construction de cet événement.
Cette exposition en tant qu'historien, moi, elle m'a beaucoup intéressé parce que justement, elle permet de mesurer à la fois une passion pour le football qui est une passion héritée de différentes époques. Le principal de ces héritages, c'est l'héritage colonial, avec une ambiguïté évidemment, hein, parce que issu d'une forme de domination, mais en même temps approprié aujourd'hui par les États dits arabes. Un autre élément qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de faire le lien entre ce qui se passe dans le monde arabe et aussi les transferts qui se produisent entre le monde arabe et les sociétés européennes, en particulier la France. Je pense notamment aux questions d'immigration. Et à ce titre-là, effectivement, il me semble que faire le lien entre tous ces éléments est une manière d'essayer de mieux comprendre les sociétés du Maghreb, les sociétés de la Méditerranée et plus largement les sociétés arabes.
Pour vous, est-ce que l'Égypte est un élément moteur dans l'apparition et dans le formidable engouement pour le foot en Afrique et au Moyen-Orient ?
Oui, l'Égypte est sans doute un État, un pays qui est l'un des plus en vue dans le monde du football, tout simplement parce que déjà il y a un héritage qui est issu de la domination britannique, il y a un héritage qui est aussi issu d'une forme d'engouement très fort. Hein. Le football, dès que Nasser est arrivé au pouvoir, il en a fait un emblème tout à fait important. Et l'Égypte a été un pays qui a beaucoup compté pour la Coupe d'Afrique des Nations, hein, qu'il a remporté à plusieurs reprises. Et souvent, l'Égypte est le pays de la passion du football particulièrement. Donc à ce titre-là, effectivement, l'Égypte est aussi un pays qui fait le lien entre différentes parties du monde arabe, la partie occidentale et la partie orientale.
Justement, est-ce qu'il y a des différences dans l'approche footballistique entre le Maghreb d'une part et le Moyen-Orient dans la pratique du football et dans l'engouement aussi des spectateurs ?
Bien sûr, il y a des disparités. Il y a une forme d'unité qu'on peut trouver quand on regarde bien l'exposition. Mais il y a aussi un ensemble de disparités qui sont tout à fait intéressantes à prendre en compte. Je pense notamment à la question du rapport au football entre hier et aujourd'hui. On voit aujourd'hui que le Qatar, que les pays du Golfe ont investi par le haut, on pourrait dire, ce sport. Mais on voit aussi que c'est un engouement populaire qui se diffuse effectivement beaucoup, beaucoup au Maghreb, beaucoup en Algérie, beaucoup en Tunisie, beaucoup en Égypte. Il y a aussi des formes d'engouement peut-être un peu moins visibles dans les pays du Mashrek ou dans le monde arabe oriental. Mais en quelque sorte, il me semble que là, chaque pays a son propre héritage, simplement parce que les rythmes d'entrée dans le football sont très différents. Et donc, il s'agit vraiment de montrer comment est-ce que se positionnent différents pays, des reconfigurations, on pourrait dire, culturelles et diplomatiques autour du football.
Est-ce que le foot accompagne la libération des peuples dans cette région ?
Alors on a pu voir que le foot a pu servir de moyen, je dirais presque de contrôle et parfois même d'asservissement dans certaines situations passées. Aujourd'hui, on se rend compte que effectivement le football est souvent un des lieux dans lequel se développent des formes de révolte, des formes de réaction à l'oppression. Et c'est un terrain extrêmement fécond pour développer des formes de révolution. On l'a vu au moment de l'époque de Nasser, on l'a vu au moment des printemps arabes en 2011, on le voit encore aujourd'hui en Algérie. C'est dans les tribunes, bien souvent, que des voix s'élèvent, que des slogans se développent et que la contestation peut apparaître. Et je dirais que le football a encore de belles années devant lui dans ce monde arabe pour pouvoir s'exprimer.
Et la répression en Égypte, Port Saïd 2012, et aujourd'hui des supporters du Zamalek ou d'autres clubs égyptiens qui sont pourchassés en prison.
Oui, alors il est dangereux effectivement d'être supporter de football et d'exprimer ses opinions, on l'a vu, hein, la répression peut être forte. Donc c'est cette tension qui est intéressante aussi dans l'exposition, qui met en scène effectivement une dimension fortement politique du football. Dans les tribunes et même sur le terrain, le politique n'est jamais loin, la contestation peut être effectivement très 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 en vue, et jouer au football n'est pas anodin, comme supporter des équipes de football n'est pas anodin, que ce soit en Égypte, comme ça a été bien mis en scène, ou que ce soit dans d'autres pays où beaucoup de choses se font à partir de ce qui se passe notamment dans les tribunes.
Yvan Gasteau, merci.
Merci beaucoup.
Foot et monde arabe, une exposition à voir à Paris jusqu'au 21 juillet. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.rfi.fr ou la podcaster sur notre appli Pure Radio. À demain, même heure, dans un instant le journal.